m'aura fallu 8 années pour percer ce secret enfoui au cœur des montagnes kurdes. Le secret des survivantes yazidis devenues mamans malgré elles. Kidnappées le 3 août 2014 par les djihadistes de Daesh, vendues comme esclaves sexuelles, violées quotidiennement, elles ont donné naissance à des enfants invisibles. Je finis par rencontrer une survivante yazidi qui me fait confiance. Anna n'est pas son vrai nom. Cette jeune mère yazidi est prête à prendre tous les risques pour revoir sa fille Maria. 10 heures de route, 13 checkpoints militaires et le mensonge à sa famille qui rejette cet enfant que Anna aime pourtant profondément. Ce voyage sera notre secret à nous.
Vous venez d'entendre la bande-annonce de ce film qui nous plonge dans la traversée d'une mère issue de la communauté yézidi. Considérés comme des bâtards par cette communauté, tous les enfants nés des viols par les djihadistes sont bannis. Irak, les enfants bannis, est le premier film qui brise le tabou et le silence auquel sont condamnés les mères yézidis et leurs enfants nés de viols. Ce film documentaire de Pascal Bourgaud était proposé en compétition des films de plus de 40 minutes lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. Entretien avec la réalisatrice et Mamo Sheiko, le caméraman, pour décrypter ce film. Interview qui sera illustrée par quelques extraits de la bande-annonce. Pascal Mamo, bonjour.
Bonjour, merci. On est ravis d'être au FIGRA. Très fiers de montrer cette première, pour la première fois, la version télévision de ce film qui est d'abord sorti dans les salles et qui est une version cinéma. Et donc, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un film qui, à travers l'histoire d'une mère et d'une petite fille, raconte le drame de toutes les familles yazidis qui ont été kidnappées en 2014, le 3 août 2014, par les djihadistes. Qui ont envahi leur village, tué les hommes, kidnappé les jeunes femmes, les moins jeunes et les petites filles pour en faire des esclaves sexuelles qui les ont violées, bien sûr, vendues, échangées, revendues. Et voilà. Et donc en 2014, moi je vais sur place pour envoyer spécial France 2 pour interviewer les premières rescapées, parce qu'à l'époque, maintenant c'est su, tout le monde sait ce scandale, à l'époque on ne pouvait pas imaginer que des djihadistes enlevaient des femmes pour en faire des esclaves sexuelles. Et donc je suis partie très rapidement en septembre pour interviewer les premières rescapées. Donc les premières femmes qui sont parvenues à s'échapper en sautant par la fenêtre, en passant par la porte de derrière, inadvertance de leur geôlier, et qui ont attesté de ces viols. Et donc une fois que cet envoyé spécial a été réalisé, je me suis dit, mais des milliers de femmes qui sont violées tous les jours, ça va forcément donner des enfants. Où sont ces enfants? Et donc pendant 8 ans, je vais poser cette question, enfoncer toutes les portes possibles à tous les niveaux, c'est-à-dire les maternités, les orphelinats, l'administration kurde, le ministère de la Santé, les autorités politiques kurdes, irakiennes et yazidis, le clergé yazidi, la communauté yazidi dans les camps yazidis et dans les ONG bien sûr. Et à tous les niveaux, c'est l'omerta. C'est-à-dire personne ne veut parler de ses enfants. Donc ce film raconte à travers l'histoire d'une maman qu'on appelle Anna, qui est anonyme, qui va revoir sa fille pour la première fois depuis 4 ans. Et après, il y a un grand suspense qu'on ne peut pas vous dévoiler totalement.
On peut peut-être revenir un petit peu, peut-être pour expliquer aux auditrices, aux auditeurs, la communauté yazidi, ça signifie quoi exactement?
Les yazidis, en fait, c'est une minorité religieuse qui existe en Irak et en Syrie, qui ont leur propre religion monothéiste. On compte aujourd'hui à peu près 500 000 personnes dans le monde, principalement basées en Irak et en Syrie, et puis à travers l'Europe. C'est une religion ni musulman, ni islam, ni christianisme, ni judaïsme. C'est une religion à part. Et ils ont un livre, ils ont un temple. Et c'est des gens qui ont vécu plusieurs tentatives de génocide. Enfin, on compte aujourd'hui 74 tentatives de génocide contre cette communauté, parce qu'à chaque fois, on a essayé de les convertir de force. Et les derniers survivants, on va dire les derniers yézidis, on compte aujourd'hui 500 000.
Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que évidemment, il y a beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gros plans sur les yeux de cette femme. On voit jamais son visage. Bon, évidemment, j'imagine que c'est un choix. C'est un peu perturbant peut-être pour le public, mais comment vous avez imaginé cette mise en scène, en fait, entre guillemets ?
Alors, ce qui était très compliqué dans ce film, c'était d'abord trouver Anna. C'est-à-dire trouver une mère yazidi rescapée de Daesh qui a été obligée, comme toutes les mères yazidi, d'abandonner leur enfant parce que la communauté yazidi ne les accepte pas, parce qu'ils considèrent que c'est les enfants de l'ennemi. Et donc elle a été obligée d'abandonner son enfant. Et puis elle l'a recherché, elle a retrouvé sa trace dans un orphelinat. Et le film raconte non pas le voyage à l'orphelinat, mais le voyage pour revoir sa fille qui est dans la famille du djihadiste.
C'est ça qui est le plus perturbant en fait.
Voilà. Ce qui est perturbant, c'est que, alors on va un petit peu dévoiler, mais on espère que ça intéresse le public justement, c'est qu'ici, Anna est tellement prisonnière de sa propre communauté et des règles de sa propre communauté, de sa famille, qui refuse de voir cette petite fille, qui n'en peut rien, et qui est une victime comme Anna. C'est qu'elle, elle veut absolument sortir sa fille de l'orphelinat, elle ne peut pas la prendre avec elle puisque sa famille refuse. Et donc elle reprend contact de manière assez surprenante avec les parents de son violeur. Pourquoi ? Parce que ses parents, les parents du violeur, du djihadiste, ne sont pas des gens de Daesh, ce sont des gens croyants, mais qui ont un islam apaisé comme la plupart des musulmans kurdes et syriens et ici chez nous. Mais ils ont vu leur fils, comme beaucoup de familles ici en France, partir tout d'un coup, rejoindre le djihad. Alors comme ils sont kurdes, il y a une espèce de complicité, il y a un lien qui s'est tissé entre Anna et la maman, la grand-mère, on va l'appeler la grand-mère, qui pendant la captivité a dit « mais convainc mon fils de partir, de quitter le djihad ». Donc il y a un lien de confiance. Et donc Anna, qui cherche une solution pour sa fille, se dit « bah en fait, finalement, mes parents, les grands-parents de mon côté, ils ne veulent pas la voir, mais il y a des grands-parents là en face qui n'en peuvent rien. Le violeur djihadiste est en prison, ils sont d'accord de l'héberger, pourquoi pas ?» Et donc le film raconte cette rencontre, ce voyage intérieur qui est revoir sa fille après 4 ans et puis rencontrer ces gens qui sont d'une humanité incroyable. Parce qu'on se dit des parents de djihadistes, c'est des mauvais. Ben non, c'est pas des mauvais.
Il y a une scène très touchante également qui est un peu une métaphore, c'est celle de l'accouchement de cette brebis qui accouche. Donc, et on voit justement cette femme la mettre sous le sein, hein, tout simplement, de la brebis. Est-ce que c'est... Alors j'imagine que ce n'était pas calculé, mais ça tombait pile poil en fait.
Ah bah, quand on a vu la scène arriver, là je vous assure que, évidemment, que la symbolique de la maternité, parce que ce film c'est avant tout un film sur l'amour maternel.
D'ailleurs, c'est une première phrase, hein. J'ai ressenti cet amour maternel qu'elle dit au début du film.
Oui. Après avoir tout fait pour avorter, puisqu'elle se rend compte que si elle est enceinte et qu'elle accouche d'un enfant, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle de s'échapper. Elle fait tout pour perdre ce bébé. Et puis le bébé arrive et la magie de l'être humain fait que même un enfant conçu dans la violence, sans désir bien sûr, puisque c'est l'enfant du viol, eh bien, finit par être l'objet de l'amour maternel. Et ce film raconte ça, c'est-à-dire c'est la force de l'amour maternel, cette femme qui, dénuée de tout moyen, de toute possibilité, qui doit faire ce film, et je reviens à votre question précédente, qui accepte de faire ce film en prenant d'énormes risques. Et donc nous, on veut montrer ce combat de cette femme tout en la protégeant et en respectant sa sécurité. Raison pour laquelle il y a un dispositif dont Mamo va parler mieux que moi, qui est celui du voyage où on l'accompagne, mais on ne peut pas la filmer, donc on la filme de dos. Et donc, c'est très compliqué dans un film de cinéma de faire passer des émotions alors qu'on filme quelqu'un de dos et qu'on filme ses cheveux et c'est la moitié de son corps. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on est allé chercher des émotions, notamment à travers ses yeux, qui ne permettent pas de reconnaître Anna, bien sûr, parce que là, on a fait tout, on a... toutes les précautions, et on ne peut pas trop en parler pour ne pas dévoiler justement, on a pris toutes les précautions qui étaient la priorité absolue pour nous, qu'elle n'ait évidemment pas d'ennui, pas, qu'elle ne risque pas de plus de problèmes qu'elle en a déjà en faisant ce film. Alors le dispositif, je vais laisser...
je vais te donner le micro.
Oui, en fait, vous parlez en fait, de la mise en scène et la, comment on a constitué le traitement visuel et narratif de l'histoire. On était obligé à trouver un langage à nous, singulier, je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'autres références. À la base, on s'est dit, voilà, on a un personnage qu'on ne peut pas dévoiler son identité, qu'on ne peut pas filmer son visage, qu'on ne peut pas la filmer dans l'espace public et elle ne peut pas rester chez elle très longtemps. Donc, comment faire un film à partir de tous ces éléments? Et la question c'était, est-ce qu'il y a des références? Et donc on a commencé à regarder, est-ce qu'il y a des films de référence? Bien sûr, on est tombé assez rapidement sur des films avec floutage, on floute le visage, etc. C'est des règles de base. Et pour nous, c'était hors de question de faire ça parce qu'on tout le motion en floutant les visages. Et donc on s'est dit, on va essayer d'être plus près d'elle. On va déjà imaginer un dispositif qui colle avec l'histoire et à partir de en connaissant Anna et l'histoire de Anna, et on s'est dit le film ça va être ce voyage parce que ça colle avec ce qu'on a envie. Anna qui va traverser plusieurs paysages différents et en traversant ces paysages, on va raconter ce récit qui est tragique avec des images poétiques, beaux, et on va l'accompagner, on va s'enfermer avec elle dans cette voiture et on va assumer ce dispositif. Et on va essayer le spectateur qui est dans une salle de cinéma, monter dans cette voiture et vivre vraiment exactement de près les ressentis dans la voix d'Anna, dans les... la difficulté de faire cette route, même ressentir la qualité de route. On a essayé vraiment de voir la chaleur, le paysage. Et donc, en fait, on a essayé au départ, on a fait plusieurs dispositifs avec Anna. On a fait, pendant un an, je peux dire, on a tourné avec Anna. On a tourné, préparé Anna, parce que Anna est... Elle ne sait pas ce que ça veut dire un documentaire, elle n'a jamais été au cinéma, et donc on a dû lui expliquer, lui montrer et faire les tests avec elle pour préparer le jour J. Et donc le jour vraiment de voyage, je veux dire, Anna, elle était déjà prête. Elle avait déjà passé, elle savait exactement...
Elle avait confiance,
elle était en confiance parce que...
Important.
Elle était avec... Elle a compris la caméra est devenue normale pour elle parce qu'on a tout préparé à l'avance, en fait.
Et c'est fondamental qu'elle ait confiance parce qu'il faut bien se rendre compte qu'Anna, c'est... donc c'est une ancienne bergère, raison pour laquelle elle c'est elle qui repère la brebis. Et elle repère qu'il y a un deuxième agneau qui n'est pas sorti. Donc ça se passe vraiment sur le bord de la route. Donc c'est une bergère. Elle n'a pas été à l'école plus loin que la troisième primaire ou à peu près. Et elle ne sait évidemment pas ce que c'est un documentaire. Elle regarde la télévision comme partout dans le monde, mais elle n'a jamais été dans une salle de cinéma. Donc quand on lui dit on va faire un film sur toi et sur ton désir de revoir ta fille... pour elle c'est complètement chinois, donc on a passé 2 ans, comme l'a très bien expliqué Mamo, à lui faire comprendre que son récit était important, comment on allait expliquer son récit et puis comment ça allait se passer avec la caméra. Donc on l'a filmé, on lui a montré ce que ça donnait, on lui a montré qu'elle n'était pas reconnaissable, donc c'est vraiment un travail d'approche et de mise en confiance très très long, raison pour laquelle ce film ça a mis 8 ans en tout pour le faire, entre l'omerta, trouver la personne qui accepte de prendre le risque de faire ce film et puis l'amener vers nous, vers le monde du documentaire et comment on va mettre en, en, en image son récit, et puis le faire, et puis le monter, et puis venir le présenter au FIGRA avec le grand bonheur.
Anna a eu la chance de retrouver la trace de sa fille dans un orphelinat en Irak. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres enfants qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière, en Syrie. Les djihadistes de Daesh y avaient établi leurs quartiers généraux. C'est ici qu'ils avaient amené des milliers d'esclaves yazidis pour les violer, les convertir de force à l'islam et peupler leur califat. À la libération, les survivantes ont été obligées par leur famille d'abandonner les enfants nés de ces viols. Certains ont été recueillis ici, dans cet orphelinat géré par les autorités kurdes.
Cette vidéo montre le moment où les mères revoient pour la première fois leurs enfants. Cette petite fille avait peut-être moins d'un an quand elle a été enlevée à sa mère. Donc la petite n'en a aucun souvenir. Ici, la nounou tente de faire les présentations, mais ce n'est pas facile. Là, nous traversons la frontière depuis la Syrie vers le Kurdistan irakien. Le petit garçon s'était un peu accoutumé à sa mère, mais il n'avait pas compris que cela impliquait de ne plus voir les nounous qui se sont occupés de lui. Cette situation est vraiment traumatisante. C'est le résultat des crimes de Daesh. C'est le lourd tribut humain de ces crimes.
Il y a la scène très touchante de cet orphelinat, justement, où ces enfants de djihadistes sont recueillis quand ils sont abandonnés. Et on voit ces femmes qui retrouvent leurs enfants. Et ce qui est effrayant, d'ailleurs, c'est que les mères reconnaissent leurs enfants, mais les enfants ne savent pas qui sont ces femmes. Et ça m'amène à une autre question, justement, en lien. C'est est-ce qu'à un moment donné, selon vous, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'un jour, ces enfants sauront d'où ils viennent exactement?
Alors, c'est une grande question qu'on s'est posée et qu'on se pose toujours. Dans l'orphelinat, dans cette partie-là, il y a deux parties du Kurdistan, comme vous aurez compris. Il y a une partie qui est filmée en Irak et là on est en Syrie. Les Kurdes et les femmes kurdes ont été très courageuses par rapport à ce problème-là et ont décidé d'aider les femmes yazidis et les mères yazidis qui étaient en détresse. C'est-à-dire que certaines étaient très contente d'abandonner, très contente, on ne peut jamais être contente, mais je veux dire, n'avait pas envie d'élever cet enfant du viol, et on peut les comprendre, et on ne doit pas les juger. Donc elles ont déposé elles-mêmes l'enfant en disant, voilà, au moins il sera nourri, logé, advienne que pourra, mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon désir d'avoir cet enfant, je veux continuer ma vie, mettre cette parenthèse, ce drame de ma vie entre parenthèses, et continuer ma vie. Et là-dessus, la communauté yazidi a pris sa responsabilité.
C'est une minorité.
Et c'est-à-dire... C'est pas une minorité, c'est-à-dire c'est la majorité des femmes ont été obligées, toutes les femmes ont été obligées d'abandonner leurs enfants, c'est-à-dire c'est une minorité qui a traversé la frontière pour aller récupérer leurs enfants. On ne sait pas combien de femmes le font de bon gré, de mauvais gré. Évidemment que se séparer de son enfant, ce n'est jamais une partie de plaisir. Alors, dans l'orphelinat, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont gardé toutes les archives et tous les noms des femmes pour que, si un jour, elles veulent le récupérer, ce soit possible. Il y a beaucoup à parier que, vu le contexte yazidi et vu ce qu'on a pu, nous, constater sur place, c'est qu'une majorité de femmes, donc toutes les femmes ont été obligées d'abandonner leurs enfants, et une majorité ont accepté, avec énormément de souffrance, en pleurant tous les soirs sur leurs oreillers, parfois en se suicidant parce qu'elles ne pouvaient pas vivre ce dilemme atroce qu'on leur présente, qui est le choix entre la maternité ou la communauté, puisque les seules femmes aujourd'hui qui vivent avec leur enfant, c'est des femmes qui ont quitté la communauté yazidi et qui vivent, la plupart d'entre elles, en exil, très loin de chez elles, en Suède, en Australie et parfois en Europe. Donc, Et c'est là, pour le coup, et je rejoins Mamo, c'est une toute petite minorité. C'est une, moins d'une vingtaine de femmes qui ont eu cette détermination et ce courage. Parce que qui veut vivre loin de sa propre famille, de sa propre communauté? Donc les autres pleurent en silence. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans ce film, c'est qu'elles ne devraient pas être abandonnées par la communauté internationale. Il faudrait que, de manière globale, on aide les Yazidis, la communauté Yazidi qui a par ailleurs énormément souffert, comme l'a dit Mamo. C'est une communauté qui est repliée sur elle-même parce qu'elle a peur de disparaître, donc créer des lois extrêmement strictes sur qui est Yazidi, qui n'est pas Yazidi, et qui s'est enfermée dans des règles, alors qu'à l'intérieur de la communauté, il existe le germe de la modération. Vous l'avez vu dans le film, il y a cette femme dans un camp qui dit « Moi, je l'aurais bien élevé, mon petit neveu, je leur ai donné mon nom. » Ils savent bien que le gène du djihad n'existe pas. Un enfant grandit avec, s'il est entouré d'amour et d'attention et qu'il grandit de manière paisible dans une famille, il va devenir un enfant tout à fait normal comme tous les autres. Il ne va pas devenir un djihadiste parce que son père était djihadiste. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait un sursaut à la fois à l'intérieur de la communauté yazidi, qu'il y ait un débat interne, qu'ils décident de permettre à celles qui le souhaitent de vivre avec leurs enfants, ce n'est pas toutes, mais celles qui le souhaitent puissent le faire. Et puis que de manière globale, on regarde ce problème des enfants, des faux orphelins d'une certaine manière, et qu'il y a un programme qui accompagne les familles, les enfants, enfin, qu'on ne fasse pas semblant que ça n'existe pas en fait.
Combien de mères pleurent en silence les enfants qu'elles ont été forcées d'abandonner? Pour elles, la libération n'est pas synonyme de liberté ni de bonheur, au contraire.
Avant de clore ce sujet, j'ai également recueilli les propos de deux élèves du lycée Guy Mollet d'Arras à l'issue de la séance. Vous venez discuter un petit peu avec la réalisatrice, le ressenti de ce film.
C'est un film qui nous touche beaucoup, surtout en tant que femme. On se sent très impuissante face à ces images qu'on ne nous montre pas forcément aux informations. Et je pense qu'en tant que jeune, c'est aussi un sujet qui nous touche parce que les viols, etc., c'est un sujet qui revient beaucoup, fréquemment. Voilà.
Moi, ça m'a touchée également, mais pour la même raison, en fait. En tant que femme, on se sent vraiment on ressent un peu ce qu'elles ressentent parce que moi, je m'imagine être séparée de ma mère. Enfin, c'est horrible, en fait. Et en fait, le fait de le voir en film, en documentaire comme ça, je trouve que c'est hyper important pour le montrer à la jeunesse aussi. Parce qu'on ne nous montre pas ce genre de choses à l'école, par exemple, beaucoup moins en tout cas. Et du coup, c'est hyper important, je trouve, de faire ce genre de documentaire, etc. Et donc, j'ai été hyper touchée. Voilà.
Et c'est compliqué parce qu'il y a le paradoxe, en fait, de ces enfants qui sont nés de viol, mais qui est... évidemment, qui sont nés de djihadistes. Et il y a la communauté yézidi, il y a tout d'un côté qui refuse justement que ces femmes, alors qu'elles sont mères, ils préfèrent qu'elles abandonnent leurs enfants. Et c'est ça qui est le plus touchant, en fait, dans ce film.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est, en fait, le fait de s'imaginer que des personnes puissent... violé des femmes et en plus, après, leur enlever leur enfant, enfin, c'est vraiment... horrible. Et donc je trouve que le film retranscrit vraiment cette émotion là.
Alors j'ai une dernière question, ces scènes justement où ce qui montre toute la cruauté, c'est quand ces mères retrouvent à l'orphelinat leurs enfants qui ne les connaissent pas, et on sent que les enfants ils sont perdus, c'est qui cette dame, voilà. Et là moi je trouve que c'est une scène qui est assez marquante quand même.
Bah moi justement là sur cette séquence là toutes les deux on a pleuré. Parce que c'est hyper touchant de se dire, les mères, elles, ça fait des années qu'elles n'ont pas vu leurs enfants, elles recherchent, elles font que penser à elles pendant tous les jours, etc. Alors que ces enfants, pour eux, les dames qui les élèvent dans l'orphelinat, c'est comme leur mère. Et donc, en fait, c'est horrible de se dire qu'ils ne se connaissent pas, mais en même temps, elles se connaissent. Mmh. Les femmes connaissent leurs enfants. Et donc, c'est hyper, en fait, c'est hyper émouvant de voir ce genre de scènes et de moments dans la vie. Voilà.
C'était un reportage autour du film documentaire « Irak, les enfants bannis » de Pascal Bourgault, réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, et qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. Il était proposé en compétition des films de plus de 40 minutes et a reçu le prix pour les droits humains.